Bonjour la vie, bonjour à mes invités, bonjour à mes techniciens, bonjour aux auditeurs. Je voulais, ça prend tout son sens, bonjour la vie ce matin, parce que nous recevons les représentants AVC24, on vous a déjà reçu.
Ben oui,
oui,
bien sûr.
Vous êtes venu déjà plusieurs fois, votre maman est venue courageusement toute seule une fois.
Ah oui, oui, oui.
C'est vrai, vous vous rappelez? Bon, l'année dernière, c'est pas vieux. Alors maintenant, je voudrais quand même qu'on remette un petit peu l'association, comment vous fonctionnez, ce que vous avez fait le temps qu'on ne s'est pas vu. Hein, vous avez fait. Et puis, on verra plus tard, après, la fonction de chacun et ce que vous allez apporter comme conseil à nos auditeurs.
Très bien.
Ça va comme ça?
Très bien.
Allez, alors, on va vous laisser vous présenter.
Alors moi, je suis Serge Lacroix, je suis un membre d'AVC24 et je suis venu à cette association lors d'un forum parce qu'elle avait été créée l'année d'avant, je crois que c'était en 2023 que j'ai adhéré, parce que j'ai fait un AVC en 2014 à l'âge de 56 ans. Et donc, la particularité, c'est que j'étais à ce moment-là pneumologue à l'hôpital de Périgueux, donc je me suis dit que m'engager dans cette association pourrait être utile. Et la parole d'un médecin, disons, j'ai peut-être plus de facilité à parler de l'AVC qu'un quidam. Voilà.
D'accord.
Et bonjour, je suis Olivier Joseph, le président de l'AVC24. Oui. Et moi, j'ai fait un AVC en 2002. Donc,
oui.
Il y a 24 ans.
Et oui, 24 ans.
Vous aviez quel âge? Parce que
j'avais 22 ans.
Ah oui. Ah oui, comme quoi, ça peut arriver à tout âge.
À tout âge, et il y a des bébés qui font des AVC.
Ah oui.
Et
ouais.
Au moins 10% des AVC surviennent avant 45 ans.
Ah oui, alors qu'on s'imagine que l'AVC est plus tardif.
Oui.
C'est quand même une maladie des personnes âgées. Oui. Plus l'âge avance, plus on a un risque, puisque le pic de fréquence, c'est vers les 76 ans.
Ah d'accord. Oui, d'accord. Très bien.
Mais il y en a à tout âge. Oui.
Donc, vous allez nous donner les petits tuyaux pour repérer, parce qu'on ne le repère pas forcément. Hein,
non.
Quand il ne fait que passer, comme ça. Alors, justement, il y a l'AVC, puis il y a l'autre.
Oui.
Parce que celui-là, on s'en méfie moins, peut-être.
Voilà. L'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Mmh. Donc, ça veut dire un événement qui lèse le cerveau de manière brutale et qui est dû à une artère soit bouchée, ce qu'on appelle l'accident ischémique, soit qui se rompt et qui provoque une hémorragie. L'accident vasculaire hémorragique. Et l'accident ischémique transitoire, c'est quelques symptômes d'un AVC fugaces qui vont disparaître en quelques secondes ou quelques minutes, et qui ne s'associe pas à des anomalies si vous faites un scanner à ce moment-là, ou même une IRM. C'est donc, c'est passé. Mais c'est un tel signe d'alerte qu'il permet, si on le dépiste, de faire en sorte que ça ne se transforme pas en un accident définitif.
Et l'artère se bouche comment?
Alors l'artère se bouche de plusieurs façons. Elle se bouche souvent à cause de l'athérome, c'est-à-dire les plaques de cholestérol, pour
d'accord,
faire simple.
Oui.
Qu'on accumule avec l'âge et avec la mauvaise alimentation, etc. Ou bien elle se bouche en raison d'un caillot. Donc il se forme un caillot. Un caillot de sang. Le caillot peut se former sur un rétrécissement. Et là, ce sont surtout les plaquettes qui vont s'accumuler comme ça, s'agréger et boucher. Ou bien faire un petit amas qui va aller un petit peu plus loin, créer un accident sur une artère plus petite. Ou alors, ça peut être un véritable caillot sanguin qui, lui, généralement, se forme au niveau du cœur dans certaines maladies comme les troubles du rythme cardiaque, la fibrillation auriculaire, les oreillettes qui fonctionnent mal, où le sang stagne et à ce moment-là, il peut coaguler. Et lorsque ce caillot se détache, il part dans la circulation et une des premières choses qu'il va rencontrer, ce sont les artères qui vont au cerveau et provoquer l'AVC. C'est ce qui était ce qui m'était arrivé à moi.
Ah oui, d'accord. Et comme c'est fugace, il faut quand même s'en méfier, parce qu'il ne faut pas dire, oh, bon, ça ne fait rien, ça passait.
Voilà.
Hein,
voilà.
Il faut quand même, aussitôt, je pense, aller voir le médecin, pas trop traiter, parce qu'après, on vous envoie à l'IRM et on vous dépiste tout de suite ce qui ne va pas. Mais il faut le faire, il ne faut pas le prendre à la légère.
Voilà. Tous ces signes qui sont, par exemple, un petit problème pour parler, une maladresse, une faiblesse dans une main, un trouble brutal de l'équilibre qui passe en quelques minutes, il faut en parler autour de soi et surtout à son médecin afin qu'il fasse les examens pour détecter, savoir s'il ne s'agit pas des prémices d'un accident vasculaire qui risque d'être plus définitif.
Et excusez-moi, mais l'AIT, quand je me remémore la vie, l'AIT, pour moi, ça a été plus sens, enfin, plus de sensibilité dans la main droite pendant 5 secondes. Et après, j'ai fait un AVC beaucoup plus lourd. J'ai été hémiplégique, lourde à droite, plus une aphasie totale. Donc voilà.
C'est... Mais dans quel espace alors entre l'AIT et l'AVC ?
Une semaine.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Ok.
C'est...
Mais vous aviez tenu compte des deux, du premier signal ou pas
non,
tout ?
Pas
d'accord,
du tout.
D'accord.
À 22 ans.
Oui, oui, bien sûr.
C'est,
bien sûr.
Oui, c'est
et
ça.
Oui, et oui. On se dit c'est un petit truc passager. Et puis, et oui, bien sûr.
Oui.
Bien, alors, qu'est-ce que vous... On va reparler un peu de votre association.
Oui.
On va pour nos auditeurs, hein, pour pas qu'ils vous oublient non plus. Puis qu'ils aillent à votre rencontre lorsque vous faites des manifestations, parce qu'on vous voit régulièrement dans les forums des associations, mais pas que. Mais pas que.
Pas que. Alors, merci pour les forums de l'association et tout ça. On est à Lalande et à Lannemarie une fois par mois. Et après, donc des associations, enfin l'association. Et après, on est en train de voir sur Ribérac, Sarla et Bergerac pour faire un écoute AVC. Et on est en train de voir ça pour l'année prochaine.
De le mettre en place.
Oui, oui, tout à fait.
D'accord. Oui, pour avoir quelque chose de proximité pour chaque région. Parce que c'est vrai que Périgueux, peut-être, ça parle pas bien aux gens. Quand on a un référent à côté, c'est plus facile.
Tout à fait.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Faut aller à la rencontre des gens. Et donc, ce sont dans les lieux, donc, souvent des soins de suite et de réadaptation chez des gens qui ont fait un AVC et qui sont en période de récupération.
Oui,
et souvent, ils ont besoin de nous, ceux-là.
Oui, je crois. Et moi, je trouve que pour vous revoir aujourd'hui, vous avez fait un grand pas dans la récupération par rapport à la première fois où vous étiez venu avec une jeune femme. Qui avait aussi un petit souci, elle aussi. Et votre maman, c'est là qu'on vous a connu la première fois.
Oui, oui, tout à fait.
Oui, mais c'est bien.
Mais après, c'est la vie qui continue.
C'est continu, oui, bien sûr. On va peut-être faire une pause musicale et puis après, on va se retrouver pour une pause musicale de votre choix pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet.
Donc, le premier morceau que vous avez choisi, c'est Slade, Mama, We Are All Crazy Now.
Stop now,
Tout à l'heure, nous avons évoqué l'âge, parce que ce n'est pas un privilège pour les personnes qui ont dépassé un certain âge, puisque vous avez rencontré au cours de vos pérégrinations médicales des gens plus jeunes. Alors, c'est pour qui et c'est pourquoi ? Parce que on est jeune, on ne fait pas attention. Ça, on ne peut pas faire ça, jeune. C'est pas
possible. L'AVC, on pense, c'est
on
pas pour nous.
On pense que c'est pas pour. Voilà,
Vous savez, c'est comme on pense que les maladies cardiovasculaires, c'est plutôt masculin et pas très féminin.
Et au contraire. Et,
c'est presque plutôt le contraire maintenant. Mmh. Ouais. Mmh. Et l'AVC est la première cause de décès chez la femme. Mmh. Donc. On en compte 150 000 AVC environ par an, mm-hmm. ce qui fait un AVC toutes les 4 minutes, pour se rendre compte, en France. Oui. Mm. C'est une maladie grave, puisque un quart des patients décèdent dans l'année, trois quarts des patients se retrouvent avec un handicap définitif après cet AVC. Donc, c'est la première cause de déficit acquis de l'adulte, devant toutes les autres causes. Il y a encore un quart des gens qui sont en activité qui ne reprendront jamais leur activité professionnelle. Et encore d'autres séquelles, notamment un quart des patients seront dépressifs après cet épisode. Voilà. Il y a des séquelles visibles et moins visibles.
La dépression est liée à la perte d'une certaine capacité.
Exactement. Ou...
Oui.
Exactement.
Ouais.
Ouais. L'atteinte du... Disons, l'organe noble du cerveau, il y est pour quelque chose.
Ouais. On parlait des femmes, je pense que peut-être c'est, vous allez me le dire, parce que vous êtes médecin, justement, pour en parler. C'est peut-être le phénomène féminin du fait que les femmes, la grossesse, les règles, la ménopause, il y a quand même un chamboulement au niveau de la circulation du sang. Ouais. C'est peut-être ça qui fait qu'on est plus facilement touché.
Oui, c'est surtout, il y a une particularité, disons, supplémentaire chez la femme, c'est le problème hormonal. Lorsqu'elle est jeune, il y a effectivement la grossesse qui est un facteur de risque, surtout lorsqu'il s'y associe une hypertension artérielle ou un diabète, pendant un diabète gestationnel. Mais aussi, hors grossesse, c'est le problème de la pilule contraceptive, stroprogestative, surtout quand elle est associée à un tabagisme.
Ah, d'accord.
Alors là c'est une bombe à retardement.
Un risque plus
grand. C'est un risque plus important.
Oui.
Alors, vous n'avez pas, dans les 150 000 que vous avez cités, quelle est la proportion homme-femme ?
C'est un petit peu plus de femmes que d'hommes.
Mais c'est quoi, 55, 45 ?
Oui, c'est ça. C'est de cet ordre-là.
Okay.
Simplement parce que, vu que l'AVC augmente avec l'âge, les femmes vivent 5 ans plus longtemps en moyenne que les hommes, et donc elles ont le privilège de... d'avoir, comme elles vivent un peu plus longtemps, elles ont 5 ans de plus de temps pour faire un AVC. Donc, c'est vrai que... Et les autres particularités de la femme, c'est la prise en charge. La femme elle-même ne s'écoute pas quand elle a des symptômes, parce qu'elle n'a pas l'habitude, elle s'occupe des autres. Alors elle, pour appeler, ma femme a appelé le SAMU pour moi, j'aurais pas pu moi, quand j'ai fait mon AVC. Donc la femme appelle pour les autres, pas pour elle. Donc elle minimise les choses. Lorsqu'elle arrive en prise en charge médicale, on la croit moins que les hommes. Ouais, c'est la tête, c'est la déprime, c'est autre chose, quoi, c'est autre chose. La troisième chose, effectivement, chez les personnes âgées, c'est que beaucoup plus de femmes vivant seules, si elles font un AVC, elles n'ont personne pour prévenir. Et donc, elles risquent de passer un laps de temps avant d'être prises en charge, qui est très, très préjudiciable, on le verra sûrement, ça, à une guérison ou à une récupération complète. Bien. Voilà.
Alors là, vous allez, pour ça, vous faites de l'aide aux victimes et vous soutenez les aidants, bien sûr. Hein. Et puis, vous allez sensibiliser le grand public, ça, c'est important. Porter la parole, parce que c'est vrai que... On n'y fait pas plus cas que ça, parce que ce n'est pas une maladie qui n'est pas beaucoup connue, déjà.
Oui.
Hein, on la découvre que depuis quelques années.
Oui, oui.
Hein, en parallèle à des maladies beaucoup plus graves. Donc, on dit, oh, c'est rien, je ne sais pas. Ouais, hein, ça peut passer, comme on dit.
Oui.
Et puis, ça, c'est ça. Et puis aussi, chose importante que vous faites, je trouve, c'est que vous allez chez les employeurs pour le personnel, pour justement... toucher les femmes, mais les hommes aussi, hein, puisque quand vous allez en personnel, c'est mixte bien souvent, hein, c'est pas forcément que des femmes ou que des hommes. Et là, c'est intéressant parce que quelqu'un qui travaille de force bien souvent développe peut-être des choses au niveau du cœur qui font travailler plus et qui font la circulation plus importante. Est-ce que je suis...
Oui. Lorsqu'on intervient, par exemple, dans des usines, où, quand on est invité par exemple, on avait été invité par la Colas, une entreprise de travaux publics, qui faisait un forum annuel sur la sécurité et la santé. Là, on a un autre discours, on a un discours plus préventif. Donc, on explique quels sont les facteurs de risque de l'AVC et donc sur quoi on peut jouer pour justement ne pas en arriver à cette extrémité. Et en particulier, y a des choses sur lesquelles vous ne pourrez rien, l'âge et l'hérédité. C'est-à-dire quand vous avez la famille qui fait des AVC ou des problèmes cardiovasculaires, vous êtes plus à risque parce que voilà, c'est comme ça. Et là, vous ne pouvez pas y changer grand-chose. Mais par contre, votre façon de vous alimenter, votre activité physique, votre hygiène de vie, notamment tabac, alcool, drogue, etc. Là-dessus, on peut jouer.
C'est aggravant.
Voilà. Et puis, savoir se surveiller un petit peu, son poids, sa tension, sa fréquence cardiaque, son pouls. Le pouls régulier, c'est bien. Le pouls irrégulier et trop rapide, par exemple, c'est le témoin d'un trouble du rythme cardiaque qui peut générer un AVC, surtout chez les personnes plus jeunes. Voilà. Et donc... le cholestérol, le diabète, quand on mesure ces cinq choses et qu'on les surveille régulièrement, on fait déjà bien quelque chose pour sa santé cardiovasculaire.
Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose. Maintenant, il existe des montres connectées qui permettent de voir son plan cardiaque. Si on ne se sent pas bien, on regarde. Ça, c'est un progrès aussi parce que forcément, on ne fait pas toujours attention. Si on fait un exercice, ça s'emballe un peu, pas en plus, hein, puis après, on n'y pense pas. Tandis que là, on peut contrôler quand même.
Surtout si ça s'emballe à un moment donné où vous êtes au repos.
Voilà, aussi.
Ou si ça vous fait ressentir des palpitations, oui, des palpitations. Choses, c'est que le cœur bat irrégulièrement. Ça, c'est un signe d'appel, bien avant l'AVC, bien sûr, puisque c'est une cause possible de survenue d'un AVC.
Bien. Et puis, il y a aussi quelque chose que vous faites bien, c'est que vous allez informer les scolaires, parce que dans les scolaires, c'est demain.
Hein, oui.
C'est la prévention.
Après, je suis... papa de 4 enfants. Et donc, effectivement, l'année prochaine, on va mettre en place des ateliers pour apprendre ça aux enfants.
D'accord.
Aux petits-enfants. Oui. Voilà.
Qu'est-ce qu'on leur explique aux enfants, alors ?
La même chose qu'aux adultes.
Okay. C'est ça. Tout ce qui est le rythme cardiaque. Et par contre...
d'être à l'écoute de son corps, d'être c'est attentif.
Ça. Mais
les symptômes.
Par contre, voilà, c'est ça. C'est les symptômes
d'appel.
Oui, d'appel. Tout à fait.
D'accord. En même temps, vous les aiguillez pour le geste à faire, si pour le téléphone
tout
et tout ça. Ça, c'est important parce que.
C'est ce que je voulais vous dire.
Voilà,
c'est
ça. C'est-à-dire que il faut pas les priver de ça. Ça, dès que vous voyez que papa, maman ne va pas bien,
exactement.
Vous appelez tout de suite. Vous attendez pas. Qu'elle soit inerte, quand vous voyez que ça ne va pas, vous faites tout de suite, parce qu'elle ne peut peut-être pas le faire, justement.
Oui, voilà.
Ou le papa ne peut pas le faire non plus. Mm-hmm. Voilà.
Tout à fait.
Ça, c'est bien pour les enfants. Hein. Oui. En fait, parce qu'en plus, ça sera nos adultes de demain.
Tout à fait.
Donc, eux, après, ils pourront transmettre à leurs enfants aussi. Ça, c'est
tout
bien.
Tout à fait.
C'est bien.
Je voulais dire aussi une remarque. C'est Dominique qui a fondé AVC24, me disait, dans les premiers temps, quand dans un forum, les gens, quand ils voient AVC, ils ont tendance à prendre ça leur fait peur.
Ça
leur fait peur. Donc, il faut essayer de les attirer autrement, mais disons, avec gentillesse, parce que des fois, encore nous parler de catastrophe, c'est vrai que c'est pas toujours gai de parler de l'AVC, mais
on pourrait l'attirer sur soi.
Voilà.
C'est ça. Ça ne s'attrape pas.
Ça s'attrape pas, mais...
Des fois que ça soit contagieux.
Ah, voilà.
En plus.
Mais non, mais c'est vrai que ça fait peur, et du coup, les gens ne viennent pas recueillir l'information, qui risque rien, Donc, on leur dit aussi qu'on fait pas de quête, hein, nous, on essaye d'informer, ouais, le plus
alors
possible.
Alors, on va voir justement le comment, après la petite pause musicale. Alors, après, vous avez plein d'endroits pour on peut vous rencontrer.
Alors, le prochain morceau que vous avez choisi, c'est Georges Moustaki, « Il y avait un jardin ».
C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre la scie et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague. Venez le rafraîchir et poursuivez son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères. Le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la, la la la, la la la.
Alors, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a deux types d'AVC. L'AVC ischémique, celui provoqué par un caillot ou un bouchon, et l'AVC hémorragique. Donc, c'est une veine qui éclate. Alors, quelle est la proportion? Quelle est la dangerosité de l'un et de l'autre?
Le bouchon, comme vous dites, c'est 80%.
D'accord. Okay.
Et donc, l'autre, c'est 20%.
Très bien. Et lequel fait le plus de dégâts? Est-ce que ça se quantifie ou c'est pareil?
Oui, la différence principale, c'est que l'accident hémorragique est dangereux dans les premiers jours.
D'accord.
Si l'hémorragie reste circonscrite à une zone du cerveau, vous aurez un déficit à cet endroit-là, qui récupère souvent, peut-être plus facilement, que l'accident ischémique. Mais si cette hémorragie se communique notamment aux ventricules cérébraux et part dans tous les espaces liquidiens du cerveau, là il y a d'énormes troubles qui peuvent survenir, une hypertension intracrânienne et le cerveau peut se détruire rapidement.
Ça ne se résorbe pas.
Non, voilà.
D'accord.
Okay. Mais les interventions chirurgicales dans ce cas-là, elles ne serviront pas. Alors que sur une lésion localisée ou sur une malformation qui a provoqué ça, aussi, on peut agir dessus chirurgicalement. D'accord. Ou même par voie endovasculaire. On en reparlera.
Oui, oui. Et le bouchon, le caillot, lui, se résorbe ou comment ça se...
Alors, justement, c'est là qu'intervient la nécessité de reconnaître un AVC pour faire venir les gens à l'hôpital le plus vite possible. Parce que plus tôt on arrive avec un caillot frais, donc qui n'a pas eu le temps de s'organiser, plus facile il est à détruire.
D'accord.
Avec un produit particulier qu'on appelle un fibrinolytique.
D'accord.
Qui
ça
agit
va
comme
le dissoudre.
Voilà, comme le desktop dans une canalisation.
D'accord.
Il va agir. C'est comme ça que je l'appelle. C'est plus simple à comprendre.
L'image
comme du desktop, et de manière à libérer le passage du sang qui va à nouveau nourrir la partie du cerveau qui était ischémique et qui va récupérer. Voilà.
Et généralement, on donne après de la pharmacopée pour tout le reste de notre vie,
pour fluidifier, et pour ce qu'on appelle des anti-agrégants plaquettaires, ce qui empêche les plaquettes de se coller les unes aux autres qu'elles font spontanément pour provoquer un caillot en cas de plaie, par exemple. Donc, pour éviter qu'il y ait ces petits caillots qui se forment notamment sur les plaques d'athérome et qui provoquent les accidents ischémiques.
Ah, oui. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres petits conseils par rapport à la personne qui nous écoute? Il dit, ah tiens, moi c'est vrai, l'autre jour je ne me suis pas sentie bien, j'avais des fourmis dans le bras, ou j'avais, je ne sais pas, des problèmes pour parler, j'étais gênée. Là, c'est vous qui avez le baromètre et c'est à vous d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Comment, il ne faut pas prendre ça trop légèrement.
Ah non, faut... Tout ce qui concerne donc les symptômes qui peuvent trahir la présence d'une ischémie transitoire, puisque quand ça ne dure pas, on dit oh, c'est bon, c'est passé, c'est parfait, je continue comme ça. Surtout, je ne dis rien à personne, parce qu'il va falloir encore voir un médecin. Alors que justement, c'est à ce moment-là, c'est là qu'il s'est passé. En gros, c'est là le petit amas de plaquettes qui est parti dans un vaisseau qui a provoqué une obstruction très temporaire, et il s'est détruit lui-même, et donc la vascularisation a repris. Et à ce moment-là, vous avez un petit déficit, ça va être un petit trouble de la vue d'un côté, ça va être des fourmillements ou une faiblesse sur un membre, deux membres, un trouble de l'équilibre un peu brutal qui régresse. Tous ces symptômes peuvent être
identifiés
par nous. Et,
voilà. Par nous,
et à ce moment-là, ce qui est bien, c'est justement d'aller voir le médecin, le lui dire, et là, on vous orientera. Oui. Et c'est, comme vous dites, c'est là qu'on mettrait en place la pharmacopée anti-agrégante ou anticoagulante qui permettra d'éviter de passer à l'AVC définitif.
Bien sûr, oui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser traîner.
Non. Il ne faut pas prendre à la légère ces symptômes, surtout quand ils sont survenus brutalement.
Oui.
Régressant rapidement, mais survenu brutalement et sur un côté. Donc, tout ce qui est compatible avec l'atteinte d'un côté du cerveau.
Alors, aussi, est-ce que, par exemple, une personne qui est toute seule, qui n'a pas de personne pour expliquer ce qui lui arrive, est-ce que la personne, à ce moment-là, peut téléphoner? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a quelque chose pour expliquer seulement? Et la personne qui est à l'autre bout va lui dire, faites ça. Parce qu'on va dire, oh, c'est pas grave, mais il faut quand même le dire.
Alors, quand c'est passé, la plupart du temps, c'est d'appeler son médecin traitant.
Oui, mais on ne peut pas l'avoir toujours tout de suite.
Ouais.
On passe par un cabinet maintenant pour avoir des rendez-vous. Tu vois, ça prend du temps.
Oui, oui.
Alors, est-ce que ce moment-là, il n'y a pas quelque chose de plus rapide?
Plus rapide.
Pour joindre...
Ah ben, il n'y a qu'un numéro, c'est le 15.
Voilà.
À ce moment-là, le 15...
Mais en expliquant, il donne les conseils adéquats.
Mais la plupart du temps, si ça a régressé complètement, ils ne vont pas vous faire venir directement. Ils vont vous dire, voyez votre médecin. Et ensuite, aller consulter qui de droit? Le neurologue, le cardiologue.
Cardiologue, en fait. Oui, d'accord. Ok. Ah bon, d'accord.
Mais même le médecin généraliste, il met en place un traitement.
Oui, oui, mais ça, je sais bien.
Préventif, puis ensuite, il va faire les explorations nécessaires pour rechercher la cause possible. Je vous donne un exemple. Par exemple, on peut faire qu'on appelle un échodoppler des vaisseaux du cou, les carotides et les vertébrales, pour savoir si elles ne sont pas bouchées en partie, et si ce n'est pas ça qui provoque des petits accidents ischémiques.
D'accord. Je vous parle de ça parce que, comme ça touche les jeunes personnes, on n'y pense pas au premier abord.
Non. C'est ça. C'est
quand on a de l'âge, oui, on dit « Oh, bah oui, on est vieux, c'est normal. » Mais là, ça vous fait rire qu'on est vieux. Mais non, c'est vrai. Hein. On accepte plus facilement sa vieillesse quand on fait comme ça.
Oui, peut-être. Mais enfin, il faut absolument aller chez le médecin.
Mais ça, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Mais des fois, on ne le fait pas.
Il faut pas que, même si on a un certain âge, négliger des symptômes comme, je sais pas, des fourmis subites dans un bras ou dans une jambe, ou une faiblesse dans une jambe qui vous fait tomber. Ça, par exemple, on a vu ça de temps en temps. Des gens qui ont fait un petit accident transitoire avaient une faiblesse, une moindre force dans la jambe. Ça se traduisait par une chute.
Oui,
parce que votre jambe est moins forte.
Oui, d'accord.
Moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé, lorsque j'ai fait un AVC. Je me suis levé un matin pour sortir le chien. Alors, j'ai descendu d'un étage, j'ai ouvert la porte au chien, j'ai refermé en attendant qu'il aille faire ses besoins. Et là, je me suis mis à tomber. Je me suis relevé, tombé, relevé.
Ah oui, d'accord.
Ça m'est arrivé 5 ou 6 fois.
Ah oui, d'accord.
Alors, je me suis fait pas mal, très mal, mais je ne l'ai pas su sur le coup parce que mon côté, je tombais du côté gauche parce que j'avais une faiblesse du côté gauche et j'étais complètement anesthésié en quelque sorte de ce côté-là, je ne le sentais pas.
Ah oui, d'accord.
Et par contre, je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je ne m'en rendais pas compte parce que là, c'est encore plus compliqué. Lorsque vous faites un accident du côté gauche, c'est l'hémisphère droit qui est touché.
Oui.
Il ne reconnaît pas qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'y passe. Donc, j'ai pu remonter en me tenant de la main droite à la rampe pour remonter jusqu'à l'étage. Et là, ma femme m'a vu avec la bouche un petit peu de travers. Elle m'a tout de suite couché sur le lit et appelé le SAMU. Immédiatement, elle a vu ce qui se passait. Mais lorsque les collègues sont arrivés, ils parlaient d'hémiplégie gauche, ils disent que je suis hémiplégique. Moi, j'étais conscient de ça, mais je le sens pas, quoi. Je le sens pas.
D'accord.
Voilà. Par contre, je savais que je ne pouvais pas parler.
Là,
j'avais totalement aphasique.
D'accord.
Je comprenais tout.
Ah oui.
J'aurais voulu leur répondre, je pouvais pas.
Ah d'accord.
Voilà.
Donc
c'est ça l'aphasie.
C'était une belle grosse alerte là.
C'est plus qu'une alerte.
Une grosse alerte là.
La levée s'était constituée.
D'accord. Bon, alors maintenant. Comment on peut faire, parce que vous faites, vous, votre association, des cafés et AVC mensuels
Oui, tout à fait. Mais non, à l'Anne-Marie et à la Lande, Café Écoute AVC, on fait des temps de parole.
Voilà.
Ceux qui ont fait des AVC et après des aidants.
Ah d'accord.
La famille. Oui,
d'accord.
La famille.
Ben oui, forcément. Oui.
C'est ça.
Il faut aider les deux, là.
Oui.
Il faut aider les deux, oui, tout à fait.
Alors, quels sont les degrés de handicap suite à un AVC?
Vous avez tous les degrés de handicap. Ça, c'est
d'accord.
Vrai qu'on peut avoir des séquelles définitives, genre une hémiplégie complète, les gens ne marcheront plus jamais.
Ah, oui.
Une aphasie complète, où ils ne sont plus capables de parler, même après rééducation.
Okay.
Jusqu'aux choses... Ça, tous les degrés sont possibles, jusqu'aux séquelles... non visibles, comme de la fatigue, de la déprime, des troubles de mémoire, des choses comme ça, qui sont moins facilement quantifiables, mais qui empoisonnent la vie de ces
tout
gens-là. Voilà.
Et quel est le taux de récupération, alors?
C'est ce que je vous disais.
Oui.
C'est 3/4 des gens gardent des séquelles.
Ok. Plus ou moins importantes.
Alors, les séquelles plus ou moins importantes sont effectivement fonction du temps, du délai entre la survenue de l'AVC et la prise en charge optimale.
Oui.
Donc, plus court il est, mieux c'est.
D'accord.
Voilà.
Et dans vos cas, alors justement
Dans mon cas, j'étais à Bordeaux. Je faisais un match de basket et je ne me sentais pas bien. J'ai plus arrivé à parler. Et petit à petit, J'avais le bras droit et la jambe droite qui...
Il ne répondait plus.
Il ne répondait plus.
D'accord. Et donc, ça a tout de suite été diagnostiqué ou...
Pas de suite, mais par contre, oui.
Vous n'êtes pas rentré chez vous quand même, après le match ou...
Non, non, non. Ah. Mais en 20 minutes, on est directement allé à Bordeaux, enfin à Pellerin.
Oui.
Et on est directement passé aux urgences. Et ils m'ont dit, bah, très bien, je vous emmène,
ouais.
Vous faites un AVC.
Okay.
Voilà. Merci d'être à Bordeaux à ce moment-là.
Et oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, ça fait une vingtaine d'années. Hein.
Oui.
Et aujourd'hui, alors, vous ressentez toujours conséquences, des séquelles. Vous avez toujours des séquelles.
Ou... Après, oui, c'est... Le matin, ça se passe relativement bien. Par contre, l'après-midi, je suis... j'ai besoin de récupération. Récupération. Par contre, le bras et la jambe...
Sont toujours fragiles.
C'est ça.
D'accord, d'accord. Mais vous avez pu mener une vie professionnelle
Professionnelle, pas forcément.
D'accord,
mais
d'accord.
Après, je suis papa de 4 enfants, la vie continue.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Et vous, alors, dans votre cas
Moi, je suis le cas, disons, idéal, si vous
d'accord.
voulez. À Périgueux, un an et demi avant que je fasse mon AVC, le service de neurologie avait mis en place une filière particulière, ce qui se fait dans tous les, maintenant à peu près partout, une filière d'urgence neurovasculaire qui permet, lorsqu'on a une suspicion d'AVC, d'amener les gens le plus vite possible à l'hôpital pour leur faire le plus vite possible un scanner ou une IRM pour séparer entre ischémie et hémorragie, confirmer donc l'AVC aussi, et mettre en route tout de suite le traitement, notamment le fibrinolytique, qui pourra faire fondre le caillot et permettre de récupérer. Donc moi, j'habitais à 500 mètres de l'hôpital. Ma femme était sage-femme et donc...
Elle a des réflexes.
Elle a eu le réflexe très rapide. Donc, vous voyez, quand on n'est pas loin, donc, c'était 7h du matin, donc il n'y avait pas encore grand monde à l'hôpital. Donc, la filière était libre. J'ai pu aller tout de suite à l'IRM. Et en gros, de 7h, quand c'est arrivé, à 8h30, on me branchait le produit pour la fibrinolyse. Oui. Et à 9h, je reparlais. Voilà. Alors, en une demi-heure, j'avais récupéré au moins la motricité. Je reparlais. Bon, j'ai toujours... de temps en temps un petit manque d'humour si vous voulez de ce côté-là, mais autrement disons que là j'ai récupéré en grande partie. D'ailleurs, j'ai repris mon activité professionnelle un bon mois après quoi.
Ah oui, d'accord. Bon, c'est bien. Et justement, puisque vous êtes retourné au travail, l'utilité de prévenir tout de suite, ça on l'a vu, mais il y a aussi peut-être des choses qu'il faudrait continuer à vivre, parce que quand on a un petit problème comme ça, en plus, ça fait peur, hein, AVC, ça fait peur, parce que tout à l'heure, on disait, on fait le détour.
Oui. Hein,
donc, eh bien, pas s'enfermer, on dirait, parce que vous avez eu un petit problème, dire, oh, ça, je ne le fais pas, parce que ça, au contraire, il faut continuer à vivre normalement.
Tout à fait.
Voilà. Et pas se priver, parce que c'est là qu'on va tomber dans la dépression, après.
C'est ça.
Plus on s'isole, plus on va déprimer.
Oui. Tout à fait.
Mais il n'y a pas de risque à vivre normalement derrière, hein, c'est sûr. Alors après, il faut quand même tenir compte.
Il faut surveiller quand même, bien sûr.
Il faut se surveiller.
Bien sûr.
Moi, personnellement, j'ai un traitement anticoagulant. Donc, il faut faire un petit peu attention parce qu'on saigne plus facilement que les
bien
autres.
Bien sûr.
Mais moi, je refais du sport, je fais du vélo, je fais de la marche.
Oui. Mais pour le cœur.
Ouais. Oui.
Le cœur, ça fait
tout
du bien.
Tout ça. Et puis pour la tête.
Oui.
Parce qu'il y a un facteur, je ne sais pas si on a parlé de tout ça, mais un facteur de risque qui est méconnu ou qui est sous-estimé, c'est le surmenage, c'est le burn-out. Moi, au moment où j'ai fait mon AVC, j'étais absolument surmené dans mon travail. Et c'était quasiment le seul facteur de risque. Je n'étais pas hyper tendu, je ne fumais pas, je n'avais pas de cholestérol, de diabète, rien de tout ça. Alors, peut-être un trouble de rythme aussi. On ne l'a pas détecté pendant qu'on me surveillait, pendant que j'étais hospitalisé.
D'accord.
Et on l'a vu plus tard. Mais le surmenage, l'hyperactivité, je pense en particulier aux femmes qui qui s'occupent des enfants, oui, qui ont un travail, oui. qui oui. s'occupent du ménage, oui. qui ont la charge mentale. Oui. Elles sont, c'est un facteur supplémentaire aussi pour elles,
ah, aussi.
Qui n'est pas négligeable.
On va faire une petite pause musicale, après on va se retrouver. Il nous reste encore un peu de temps, Christian.
Il nous reste encore un tout petit peu de temps après la pause musicale. Alors on va écouter Redbone, Come and Get Your Love.
Tout à l'heure, vous nous avez mis un petit peu l'eau à la bouche en disant que vous étiez en train de préparer des choses sur Ribérac et autres villes. C'est bien parce que vous vous avancez vers la proximité.
Oui, tout à fait. Mais là, normalement, sur Ribérac, il y a l'hôpital qui nous a appelés pour nous dire que forcément, il y a des écoutes AVC qui vont se faire...
Vous n'avez pas le lieu, c'est ce que ça se pas encore.
Ah, non,
mais vous reviendrez, encore. Ça mais nous fera
exactement.
L'occasion de vous revoir avec plaisir. non, vous reviendrez. Mais voilà, ça c'est important parce que quand même c'est loin, la capitale est loin. Ça oui. demande un temps déjà, oui. donc ça peut être quelque chose qui peut rendre énormément service.
Mais voilà. Après, il y a à Saint-Astier, il y a un écoute AVC, mais par contre, il faut aller à Saint-Astier. Voilà.
Oui, aussi. Ouais. Non, mais c'est bien. C'est vos projets qui sont intéressants. Vous reviendrez nous en parler. Christian, vous voyez d'autres choses ? Vous voyez d'autres choses.
On n'a pas donné vos coordonnées, vous avez des permanences, des sites.
Vous nous dites les téléphones, comment les gens peuvent vous joindre, si vous travaillez avec d'autres associations en collaboration de loin, de près, etc. Pour les intervenants, les gens qui viennent à domicile chez les personnes âgées, entre autres.
Tout à fait. Là, c'est Cassiopeia ou autre chose.
Autre chose.
Mais donc, on donne une carte à Cassiopeia et dans le secteur où ils vont, ils donnent leur carte, enfin la carte aux gens.
Est-ce que vous intervenez, par exemple, dans une association où il y a des gens qui vont à domicile pour former les gens qui vont? Sur l'AVC. Vous n'avez pas encore commencé?
Ah non, non.
Mais, pour les personnes.
Pas directement, mais par exemple, quand on est allé dans une résidence pour personnes âgées, le personnel, ou des gens qui interviennent. La dernière fois, il y avait une pharmacienne de Bergerac, des gens comme ça qui étaient intéressés. Oui.
Ça permet aussi aux intervenants d'avoir les premiers réflexes aussi.
Exactement.
C'est important, parce que si la personne ne peut pas le faire, il faut bien que quelqu'un le fasse. Il ne faut pas être pris au dépourvu.
Ah mais oui, tout à fait.
Donc, c'est intéressant de faire. Vos projets sont très intéressants.
Mais souvent, ce sont les associations comme ça qui nous demandent de venir et d'intervenir.
Qui font le relais, souvent.
Qui nous demandent d'intervenir sur leur public à eux pour sensibiliser.
Ouais. Très bien. Vous allez peut-être nous dire comment on peut vous joindre, nos auditeurs, s'ils ont des questions à poser.
Donc, Olivier, le téléphone, c'est le 06 22 72 71 43, 06 22 72 71 43, ou le mail assoavc24@gmail.com.
Bien, on vous remercie. Et puis quand vous intervenez quelque part, si vous avez une petite information à faire passer, les journalistes peuvent vous prendre par téléphone en disant on fait ça, de telle heure à telle heure. Voilà, ça dure 10 minutes, d'accord, mais au moins ça rentre dans le journal.
Tout à fait.
Très bien.
Voilà. Merci.
Merci beaucoup, merci messieurs.
Merci à vous.
Et on va terminer en musique. Vous avez choisi HK, Danser encore. C'est tout à fait optimiste. On y va.
Merci à vous.
Jamais docile ni vraiment sage, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance.
Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Oh non, 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 non,
nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance
pour confiner notre conscience. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Passer nos vies sur une grille d'accord.